Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est l'heure de vous réveiller. Votre magazine Nous voilà bien commence et oui, c'est déjà le week-end. Vous avez tout à fait le droit de rester sous la couette, hein. Mais tendez bien l'oreille, vous allez apprendre plein d'infos utiles de 9h15 à 10h comme chaque samedi sur RTL. Et c'est parti pour le sommaire. Il peut arriver qu'un achat, un service, un abonnement ou une consultation ne nous donne pas satisfaction et qu'un arrangement à l'amiable ne puisse être trouvé. Alors, quel recours avons-nous en tant que consommateurs en cas de litige avec un commerçant ou une entreprise ? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, nous aide à nous défendre. Elles nous promettent la jeunesse éternelle ou presque. Les crèmes anti-rides sont-elles vraiment efficaces ? Adélaïde Robert, journaliste à 60 millions de consommateurs, a mené l'enquête. C'est un des qui nous ramène en enfance et il n'y a pas d'âge pour en manger, c'est tellement délicieux. Comment préparer une savoureuse compote maison ? Atelier cuisine avec Ligori Lecomte, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Et maintenant, que vais-je faire ?
C'est bien la question qu'on se pose quand on a un litige. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. On dit toujours que le client est roi, mais ce ne serait pas un adage qui ne se vérifie pas véritablement toujours.
Ben, c'est vrai, malheureusement. Pourtant, cela devrait être la devise de tous les commerçants, de toutes les entreprises et de tous les services clients qui ne décrochent pas quand vous les appelez ou qui répondent appuyés sur un pour continuer après 10 minutes d'attente payante.
C'est vrai.
Mais ce que j'ai, en tout cas, c'est que le consommateur a toujours des droits et ces droits, quelle que soit la période, ils se doivent d'être respectés. Il existe d'ailleurs plusieurs outils pour défendre les droits des consommateurs.
Est-ce que c'est courant les litiges entre les consommateurs et les entreprises, Armelle ?
Ah, mais oui, il y en a tous les jours. Ils peuvent venir de professionnels indélicats, involontairement ou non. Ce n'est pas le bon canapé qui est livré, pas la bonne couleur. Ils ne se plient pas aux droits qu'ils doivent respecter. Cela peut aussi venir d'incompréhension entre les consommateurs et les entreprises. On pensait avoir compris le contrat, mais en fait, pas du tout.
Alors justement, quels sont les types de litiges qu'on peut rencontrer, je ne sais pas, en boutique, avec un professionnel ou même sur Internet ?
Alors en ce moment, le plus grand nombre de litiges, les deux tiers, concernent les achats en ligne. Des retards de livraison, des livraisons non réalisées, des produits qui ne correspondent pas à ce qui était vendu. En boutique, les litiges, bah, cela peut être des vêtements qui ont été troués ou abîmés après un nettoyage au pressing, ou encore des travaux de réparation sur un véhicule ou une machine à laver qui sont mal effectués ou pas terminés. Cela peut être aussi pour le démarchage téléphonique ou à domicile, le droit de rétractation qui n'est pas respecté. Ou encore, cela arrive beaucoup dans le secteur de l'énergie, un opérateur qui vous envoie des factures trop élevées, incompréhensibles, on ne sait pas à quoi elles correspondent, des consommateurs qui n'arrivent pas à se faire rembourser un trop perçu ou qui ne peuvent pas résilier leur contrat. Donc dans toutes ces situations, vous disposez de droits et de voies de recours amiables et judiciaires.
Et ça peut aller loin tout ça ?
Ah bah oui, parfois c'est le parcours du combattant pour se faire entendre et les montants peuvent être conséquents. Par exemple pour des malfaçons, après une construction de piscine ou des travaux de rénovation dans une maison ou des réparations sur une voiture, cela peut coûter plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros.
Et j'imagine, j'étais en train d'y penser, que la crise sanitaire a généré de nouveaux litiges.
C'est vrai, on a relevé en 2020 de nombreux litiges dans le secteur du tourisme. Ouais. Des compagnies aériennes qui ne voulaient pas vous rembourser, qui vous proposaient d'office avoir des bons d'achat, alors que le droit européen allait dans le sens d'un remboursement des billets. En un an, les services de la répression des fraudes ont enregistré de leur côté plus de 5000 arnaques en lien direct avec la pandémie. Des remèdes soi-disant miracles contre le coronavirus, des lampes et des purificateurs d'air qui protègent du coronavirus, des compléments alimentaires ou des huiles essentielles qui permettent de guérir du coronavirus, sans oublier tous ces masques et tous ces gels payés et commandés en ligne qui n'ont jamais été livrés, qui ne sont jamais arrivés. Et là aussi, les services de la répression des fraudes ont vu bondir le nombre de litiges en ligne, 25 000 l'an dernier, dont 10 000 rien qu'à Noël, parce que les différents confinements ont bouleversé nos modes de consommation. On se fait davantage livrer à la maison et cela n'arrive pas toujours comme prévu.
Et alors, quels sont les différents recours des consommateurs ?
Alors, la première chose à faire, c'est de contacter le professionnel. C'est l'étape indispensable, quel que soit le mode de règlement qui sera choisi après. On n'est pas content du professionnel, donc on va lui dire, on l'appelle, on contacte son service client ou on va le voir. Et on on lui explique le problème pour tenter de négocier avec lui. Si sa réponse n'est pas satisfaisante, on estime qu'on est toujours lésé, il faut formaliser cette demande en écrivant un courrier recommandé, une demande écrite avec accusé de réception. Vous le mettez en demeure d'exécuter son obligation et vous gardez une copie du courrier. C'est la preuve qu'on a essayé de contacter ce professionnel.
Et si on ne veut pas le faire vraiment soi-même ou qu'on n'y parvient pas, on ne peut pas avoir recours au médiateur ?
Mais alors, pour pouvoir saisir le médiateur, il faut déjà avoir passé l'étape 1.
D'accord.
Il faut déjà avoir contacté le professionnel. Et 2 mois plus tard, si vous n'avez pas obtenu de réponse ou une réponse qui ne vous semble pas satisfaisante, vous pouvez saisir le médiateur gratuitement. Dans tous les secteurs, les banques, les assurances, les transports, la téléphonie, il y a des médiateurs de la consommation. Vous ne payez rien, c'est à la charge du professionnel. Donc c'est à vous de le saisir. Son travail, c'est d'aider le consommateur à trouver une solution à l'amiable pour le litige concerné. Vous trouvez son nom et comment le saisir sur le site de l'entreprise, dans les conditions générales de vente normalement. Sinon, il faut aller sur le site du gouvernement, www.economie.gouv.fr/médiation-conso pour trouver le nom du médiateur pour chaque secteur.
On le mettra sur nos réseaux sociaux. Hein. Est-ce qu'on peut aussi se rapprocher d'une association de consommateurs comme il en existe ?
Oui, elles ont des juristes pour vous défendre et parfois en regroupant les litiges, elles peuvent faire des actions de groupe. Elles attaquent en justice une entreprise pour un même litige. Ce sont les class actions à la française. Bon, en France, ce n'est pas quand même comme aux États-Unis. Il y a eu 21 actions de groupe en 6 ans depuis qu'elles existent dans le droit français et pour l'instant, aucune n'a encore été définitivement tranchée par la justice. Seuls des accords amiables ont jusqu'ici permis aux victimes d'être dédommagées.
J'y pense, si le commerçant est à l'étranger, comment fait-on ?
Eh bien, si vous avez un litige avec un commerçant situé hors de France, mais dans l'Union européenne, n'hésitez pas à faire appel au Centre européen des consommateurs. Je vous conseille vivement d'aller regarder leur site internet, il est très bien fait, europe-consommateur.eu. Par exemple, ils vous aident si votre colis venu d'Italie est endommagé ou si votre voiture achetée en Allemagne n'arrive pas. Vous trouverez les démarches en ligne. Il existe 30 centres européens des consommateurs dans chaque pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Islande.
Et ça peut aller jusqu'au tribunal, ces histoires ?
Oui, quand vous avez épuisé toutes les alternatives de règlement des conflits, pour les petits litiges inférieurs à moins de 5000 euros, vous n'êtes pas obligé de vous faire assister par un avocat. Mais sachez que dans le secteur du gaz ou de l'électricité, par exemple, 9 fois sur 10, le fournisseur se plie à la décision du médiateur de l'énergie. Et dans le cas contraire, quand le dossier part en justice, les juges reprennent souvent la conclusion du médiateur pour fonder leur jugement. Donc c'est bien d'avoir saisi un médiateur avant.
Alors justement, on va se retrouver dans un instant parce qu'on a encore des questions à vous poser à ce sujet. Est-ce que vous utilisez des crèmes anti-rides ?
Je suis un petit peu obligée en ce moment.
Pardon. Non mais pardon, c'est un peu intrusif comme question. C'est mon cas aussi. On se pose beaucoup de questions au sujet de leur efficacité. 60 millions de consommateurs à mener l'enquête et justement on en saura plus dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous savez qu'on peut faire plein de compotes différentes. C'est Ligori Lecomte qui va nous raconter ça dans un instant. Pour ne pas avoir les yeux en compote le matin devant son miroir, on a tendance à se dire qu'on peut mettre plein de crèmes anti-rides. Figurez-vous que 60 millions de consommateurs a mené l'enquête. Vous en saurez plus dans un instant. Mais pour l'heure, c'est Armelle Lévy qui est avec nous pour parler des litiges entre les consommateurs et les entreprises.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème.
Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci.
Sylvie et Johnny, en ce samedi matin sur RTL, merci d'être avec nous. Armelle Lévy, les litiges entre les consommateurs et les entreprises. Dites-moi, vous nous parliez il y a un instant, en fait, que suite à un achat, on peut aller jusqu'au tribunal. Mais avant d'en arriver là, il y a aussi Signal Conso. C'est quoi Signal Conso pour ceux qui nous écoutent et comment ça fonctionne ?
Eh bien, c'est une plateforme de signalement en ligne mise en place par les services de la répression des fraudes l'année dernière. Et en un an, il y a déjà eu 60 000 signalements de consommateurs sur la plateforme. Quand vous rencontrez un problème avec un professionnel, une grande surface, un e-commerçant, un démarcheur, un artisan, vous le signalez sur signal.conso.gouv.fr.
Ouais.
Vous écrivez l'objet du litige, vous pouvez partager des photos en ajoutant les coordonnées du professionnel en question. L'administration est immédiatement prévenue et cela déclenche immédiatement un message d'alerte sur la boîte mail du professionnel. Il est tenu de vous répondre directement ou sinon, s'il n'est pas d'accord avec vous, il doit apporter des explications à l'administration.
Et qu'est-ce qu'on peut
attendre de ça, justement ?
Eh bien, quand un professionnel se retrouve dans le viseur de l'administration, il peut accélérer la procédure pour régler les litiges et changer ses pratiques. C'est le cas 8 fois sur 10, l'entreprise trouve une solution. Mais si l'administration estime que le litige n'a pas une fin satisfaisante ou que le professionnel rencontre un grand nombre de problèmes avec différents consommateurs, elle peut orienter ses contrôles sur l'entreprise dénoncée et diligenter une enquête. C'est ainsi que, grâce au signalement des consommateurs, les services de la répression des fraudes ont pu mettre la main sur des personnes peu scrupuleuses, cachées derrière la toile. Sur leur site, elles promettaient des masques en tissu, encaissaient l'argent et ne les envoyaient jamais. C'était une arnaque et l'administration a fait fermer plusieurs sites comme celui-ci. Elle a transmis ses enquêtes à la justice pour que les escrocs soient sanctionnés.
Mais ce qui veut dire que c'est aussi une aide pour les professionnels.
Oui, par exemple, l'an dernier, beaucoup d'assurés n'ont pas été indemnisés par une compagnie d'assurance alors qu'ils payaient leurs cotisations tous les mois et qu'ils transmettaient tous les documents nécessaires. Sur Signal Conso, l'administration a remarqué que les clients de cette assurance rencontraient tous les mêmes difficultés. Ils n'étaient pas indemnisés, cela les mettait dans des difficultés financières. Donc elle a ciblé ses contrôles sur la compagnie. Elle s'est aperçue que les contrats étaient mal rédigés, qu'il y avait plein de clauses abusives. Donc cette compagnie a été contrainte de corriger au plus vite ses pratiques pour éviter que cela ne se reproduise. Et maintenant, elle est en règle. Un autre exemple, comme elle vend en direct ce qui se passe grâce à Signal Conso, l'administration a pu faire retirer du marché des produits avec des fausses allégations. Guérie du Covid, elle a fait des références des produits en question et pour les pilules miracles, elle a aussi procédé à des rappels de produits car ils étaient dangereux.
Et alors qu'est-ce qu'on fait en cas d'achat d'un produit rappelé car dangereux ?
Alors après Signal Conso, il existe maintenant depuis une semaine, c'est le dernier né, la plateforme Rappel Conso de l'administration, accessible sur votre ordinateur, téléphone portable et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver tous les rappels de produits dangereux en France. Pour chaque rappel de produit, vous avez la marque, les raisons du rappel, les lots concernés, les réseaux de distribution, s'il vient de telle ou telle enseigne, et les consignes sur la conduite à tenir. Mais d'une manière générale, quand un produit est rappelé parce qu'il est dangereux, le principe, c'est de ne pas s'en servir ou de ne pas le consommer.
Bien sûr.
Et surtout, de le tenir à bonne distance des enfants. Vous pouvez le ramener après dans le magasin. Un vendeur vous le reprendra contre un remboursement ou un échange. C'est comme vous voulez.
Eh bien, très bien. Merci pour toutes ces infos, Armelle Lévy. C'est très complet. On en a encore appris beaucoup grâce à vous ce matin. Je suis persuadée que vous voulez apprendre plein de choses aussi, vous, sur les crèmes antirides.
Ah,
on
oui,
est d'accord.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup dans les rayons et effectivement, je ne sais jamais laquelle choisir.
Et est-ce qu'elles sont véritablement efficaces? 60 millions de consommateurs à mener l'enquête. Donc, restez à notre écoute. Merci, Armelle Lévy. Oui. À très bientôt sur RTL. Les a chanté justement les crèmes, enfin peut-être pas non plus les crèmes anti-rides dont on va parler avec Adélaïde Robert. Bonjour, soyez la bienvenue sur RTL en ce samedi matin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. On l'attendait, cette enquête. C'est quoi une crème anti-rides efficace ?
Alors, une crème anti-rides efficace, c'est une crème qui doit lisser, voire combler les rides et ridules. En fait, c'est un type de crème qui s'adresse à des femmes finalement assez jeunes, dès 30 ans, et qui doit apporter aussi de l'hydratation, redonner de l'éclat à la peau, promet en général aussi un meilleur confort cutané. Voilà, ça retend un petit peu, mais c'est vrai que ça se différencie un petit peu des produits, par exemple, anti-âge ou anti-âge global, qui s'adressent à des personnes un peu plus âgées, au-delà de 40 ans, et qui, elles, vont promettre aussi, par exemple, d'offrir davantage de tonicité ou des effets anti-taches brunes, donc qui vont vraiment s'adresser à tous les signes du vieillissement cutané.
Alors, est-ce qu'elles tiennent leurs promesses ? On va y revenir dans un instant. Pourquoi est-ce que les formules des crèmes anti-rides sont réputées pour être lourdes ?
Peut-être parce que les crèmes anti-rides, au départ, ont été souvent présentées vraiment comme un concentré de technicité et de science. Ça permettait d'attirer un public qui, à l'époque, croyait vraiment en la science comme un progrès. Et du coup, on retrouve d'ailleurs ça sur les pots de crème. On voit encore beaucoup des noms assez compliqués de molécules qui sont mis en avant. Le coenzyme Q10, des peptides un peu en tout genre, des molécules brevetées avec des noms compliqués type Renoratechnologie. Mmh. Donc, même si on a tendance à aller aussi avec les produits anti-rides sur des formules plus légères, un peu plus naturelles, on retrouve encore quand même des listes d'ingrédients à rallonge avec vraiment beaucoup d'ingrédients. Nous, là, dans notre essai, en moyenne, il y avait 38 ingrédients par crème.
Ce qui est énorme. Et encore faut-il que ce soit efficace. Les différentes crèmes sur le marché, elles ont une composition à peu près similaire ou quand même, on peut en avoir qui sont très différentes les unes des autres?
Nous, là, dans la sélection des 10 crèmes qu'on a testées, on a quand même des compositions assez différentes. D'abord parce qu'on a pris du bio et du conventionnel, donc déjà on se retrouve pas du tout avec le même type d'ingrédients. Ensuite parce qu'on a par exemple d'un produit à l'autre de 24 ingrédients à plus de 52 ingrédients. Et puis on a des actifs différents parce qu'on voit qu'il y a certains donc il y a des actifs qui sont brevetés qu'on ne peut retrouver du coup que dans les marques du groupe, par exemple L'Oréal qui détient le brevet. Donc ça fait qu'on a quand même des formulations assez différentes, plus ou moins naturelles, plus ou moins vertueuses pour la santé et l'environnement et plus ou moins efficaces.
Alors quand vous parlez des actifs, on a l'impression que vous nous parlez un petit peu une langue étrangère, les actifs et les molécules qui sont performants dont on peut retrouver la notion sur une étiquette, quels sont-ils ?
Alors on retrouve souvent des molécules qui ont la réputation depuis des années d'être performantes sur les rides, donc il y a l'acide hyaluronique qui peut exister aussi sous forme d'injection, il y a le coenzyme Q10. En général, ce sont des molécules qui ont déjà un effet sur l'hydratation et qui soit agissent par elles-mêmes, en restant à la surface de la peau, elles captent l'eau, soit il y a des plus petites molécules qui vont en fait traverser la peau et aller stimuler la formation d'autres molécules qui, elles, sont impliquées dans l'élasticité de la peau, par exemple le collagène. Le collagène, c'est une grosse molécule. On s'est rendu compte que ça servait pas tellement de la mettre directement dans la crème parce que ça pénétrait pas dans la peau. Et par contre, les industriels ont trouvé des petites molécules qui vont pénétrer dans la peau et qui vont aller stimuler à l'intérieur la synthèse naturelle de collagène. Et du coup, elles ont une efficacité plus importante parce que voilà, ça va au cœur de la peau, rétablir un peu d'élasticité, réhydrater, etc.
Quand on a préparé cette émission, on s'est intéressé au cosmétoscore. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant, Adélaïde Robert. Et puis, vous allez aussi nous expliquer comment vous avez procédé pour tester les crèmes anti-rides. Vous avez perdu 20 ans ou quoi ?
Non, pas vraiment.
On va en parler dans un instant, évidemment. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout nous dire. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Vous vous demandiez ce que vous alliez faire comme cuisine en ce samedi. Eh bien, vous allez vous attaquer à la compote, car Ligori Lecomte va vous donner envie de préparer ce dessert, qui n'est pas qu'un dessert d'ailleurs, et qui est plein d'inventivité. Ça, ce sera dans un instant, mais pour l'heure, à propos de compote, Adélaïde Robert nous parle des crèmes anti-rides.
Un petit pot de crème dans ta vie, un petit pot de crème aujourd'hui pour toi.
Un petit peu de crème, Mathieu Bogart sur RTL. Vous êtes donc notre invité. Merci Adélaïde Robert, journaliste à 60 millions de consommateurs. Et vous avez fait un truc qu'on a tous envie de faire. C'est que vous avez testé les formules des crèmes anti-rides et leur efficacité pour le magazine. Avant d'en parler concrètement, c'est quoi le cosmétoscore ?
Alors, le cosmétoscore, c'est un score qui a été mis au point par l'Institut National de la Consommation qui évalue à la fois l'impact pour la santé et pour l'environnement de la formule d'un produit cosmétique. Voilà, donc en fait, ça tient compte des risques de tous les ingrédients qui sont dans la formulation, mais en pondérant par rapport à la quantité de chaque ingrédient dans le produit. C'est un score qui est un peu comme beaucoup d'autres scores, qui va de A à E, et donc avec un ou de vert pour le A à E dans le rouge.
A étant le meilleur.
Voilà.
Évidemment.
Exactement. E étant le moins bon. Et pour les crèmes anti-rides, on n'a pas des super cosmétoscores. On se retrouve globalement avec des cosmétoscores assez médiocres. Et ça s'explique surtout en fait par le fait qu'il y a beaucoup d'ingrédients et que il y a du coup plus de risques d'avoir des ingrédients avec des risques associés.
Sur la planète.
Surtout un petit peu pour la santé. Alors c'est vraiment un score important, qui est très exigeant. Il faut pas paniquer non plus quand on voit des mauvais cosmétoscores, parce que si on prend par exemple le premier de notre sélection qui a un cosmétoscore C, c'est surtout lié à une mauvaise appréciation sur la santé, et parce que ils utilisent en fait des ingrédients qui peuvent être sous forme nano. Alors normalement ils le sont pas, parce que quand on est sûr que c'est sous forme nano, ça doit être marqué sur le produit.
Qu'est-ce
Mais
qu'on
en fait, la répression des fraudes, des nanomolécules, c'est-à-dire des toutes petites molécules qui peuvent avoir éventuellement des effets un peu néfastes, comme par exemple cancérigènes sur la santé.
D'accord.
Et donc, par principe de précaution, on considère que c'est plutôt pas bon d'avoir ce type d'ingrédients.
Comment est-ce que vous avez procédé pour tester les crèmes anti-rides ?
Alors, on a fait un appel à un panel d'utilisatrices qui ont testé ces crèmes pendant 28 jours en suivant les conseils d'utilisation marqués sur les peaux.
Vous auriez dû m'appeler.
Elles ont rempli un questionnaire de satisfaction. Et pour la performance sur les rides, on a évalué ça en labo avec un appareil qui permet de comparer les images 3D du relief cutané et donc de mesurer précisément l'effet. Alors au niveau des rides de la pâte d'oie, en fait, c'est un standard de l'industrie cosmétique.
Alors les résultats en labo et les avis des personnes qui ont testé les crèmes sont-ils concomitants ?
Pas du tout. On a effets anti-rides assez mauvais. C'est pas forcément surprenant. C'est assez mauvais sur les anti-rides. On s'y attendait un peu parce que c'est pas le premier essai où on est un peu déçu.
Ouais.
Et les avis sont beaucoup plus positifs sur le ressenti des panélistes sur l'hydratation, l'éclat de la peau, la fermeté, le confort d'application. C'est vrai que quand on achète une crème anti-rides, c'est pas seulement pour appliquer une crème contre les rides, c'est aussi pour le plaisir de prendre soin de soi, d'appliquer une crème qui va être agréable, avec un parfum qu'on apprécie, qui va laisser une sensation de fraîcheur, etc. Donc voilà, on a effectivement pas du tout les mêmes résultats, mais voilà, ça explique peut-être aussi, on sait tous que voilà, on n'attend pas de miracle d'un point de vue anti-rides. Enfin, je pense qu'il y a plus grand monde qui s'attend à perdre 20 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, mais en tout cas, on a quand même une sensation sympa.
Voilà, on a envie d'être plus confort, mais on nous promet aussi des effets quand même de rajeunissement. Alors, quels sont les produits qui se démarquent ?
Les produits qui se démarquent, en fait, alors on a, c'est toujours assez curieux, c'est finalement le produit le moins cher, c'est le produit Sienne Q10 de Lidl qui, sur la performance anti-rides, a été le meilleur. C'est vraiment lui qui a eu une efficacité significative sur un ensemble de paramètres de rugosité. Il y en a que deux autres qui ont eu une petite efficacité, mais pas sur tous les paramètres comme Sienne. C'est Age Focus de Nocibé et Lift Active de Vichy. Et c'est vrai que les autres ont eu la satisfaction de la clientèle, mais pas l'efficacité objectif sur les rides.
C'est
en
fou.
Revanche, si on prend les grands, mais la crème Sienne, par exemple, en même temps, elle est très efficace sur les rides, mais les panélistes l'ont plutôt moins bien notée parce qu'elle leur donnait moins une sensation d'hydratation, par exemple, ou de confort d'application, etc. Donc, elle s'en sort finalement pas si bien dans notre tableau.
En tout cas, ce que l'on voit aussi dans votre étude, c'est que les produits les plus efficaces sur la promesse de l'anti-rides sont bien souvent ceux que l'on n'achèterait pas et qui nous paraissent les moins chers.
Alors, c'est pas pour nous très, très surprenant parce que dans beaucoup d'essais, il n'y a pas de lien entre le prix et l'efficacité.
Et oui, c'est ça.
Alors, ça surprend les gens parce que je pense que vraiment, on a tous dans l'idée que plus on va payer plus cher et plus ce
Exactement.
Sera efficace. Bon, voilà, faut un peu déconstruire le mythe. Il y a probablement des marques qui essayent de rentabiliser tout ce qui est recherche et développement. L'une des plus chères, c'est Shiseido, c'est 84€ quand même le pot de 50 ml, hein, contre 3€ celui de Sienne pour la même quantité de produits. Ça s'explique en tout cas pas en termes d'efficacité.
Comment se situent les crèmes anti-rides bio ?
Bah, les crèmes bio, là, dans notre sélection, donc c'est Marilou Bio, La Vera, Sobioéthique, elles s'en sortent très bien puisqu'elles sont quand même dans les 5 premiers sur les 10. En fait, elles sont tirées vers le haut parce qu'elles ont l'avantage d'avoir un meilleur cosmétoscore. La crème Marilou Bio, c'est la seule d'ailleurs qui a le meilleur en fait, de la sélection, qui a un A en cosmétoscore. Et en fait, elles n'ont pas tellement de différence en termes d'efficacité et de confort cosmétique que les autres crèmes plus conventionnelles. Ce qui surprend pas non plus parce que c'est vrai qu'il y a eu une crainte au tout début du bio de voir finalement arriver des produits peut-être bio mais moins efficaces ou moins agréables ou avec une odeur moins agréable, et en fait non, pas du tout, c'est vraiment des produits qui maintenant offrent aussi bien que des produits conventionnels.
Alors l'effet réel de ces crèmes quand même, bon, vous venez de nous dire faut arrêter d'y croire quoi, c'est pas de la poudre de perlimpinpin non plus. Le vieillissement cutané, est-ce qu'il peut réellement être ralenti grâce à une crème? C'est une histoire de confort ou c'est une histoire d'efficacité, la vérité?
Ça a l'air d'être plutôt une histoire de confort. Ce qui a l'air de vraiment jouer, c'est l'hydratation. C'est-à-dire qu'une crème qui hydrate, ça va offrir un meilleur aspect cutané et un meilleur confort. Après, il y a eu des études chez les jumeaux qui ont montré que le vieillissement cutané, c'était quand même beaucoup une question de gènes. Donc, il y a des gens qui ont un vieillissement cutané plus lent. Et puis, il y a surtout les facteurs externes, comme l'exposition au soleil. Et ça, on voit arriver dans les crèmes de plus en plus des crèmes qui ont des filtres solaires.
Oui.
Même dans des crèmes de jour, parce qu'effectivement, c'est quand même vraiment là-dessus qu'il faut jouer. Il faut vraiment éviter le soleil.
Avoir une bonne hygiène, finalement, de vie, c'est ce qui permet de vieillir le mieux. Merci beaucoup, Adélaïde Robert, de nous avoir à ce point éclairé en ce samedi matin. On retiendra quand même le pot de la crème anti-rides la plus efficace aux alentours de 3€. Et effectivement, c'est plutôt intéressant et je pense que ça, c'est une révélation pour nos auditeurs. En tout cas, on retrouve toute votre enquête et on la conseille. Votre test dans 60 millions de consommateurs. À bientôt, Adélaïde, sur RTL.
À bientôt, merci. Au revoir.
Moi, j'ai faim. Vous avez vu l'âge de glace 2, les Gorilles Lecomte ?
Écoutez, pas encore, mais vous allez me donner envie. Hein.
Ah bah écoutez, oui, parce qu'il chante, j'ai faim. Alors vous, c'est plutôt l'âge de la compote aujourd'hui. Vous êtes chef du service cuisine à Z.com et auteur culinaire. Et justement, il n'y a pas d'âge pour manger de la compote. Pourquoi est-ce qu'on pense toujours que c'est un dessert de l'enfance ?
Non, mais on pense toujours qu'il faut avoir 6 mois ou 97 ans pour en manger. mais pas forcément. On peut aussi en manger entre les deux, c'est promis. Et moi, j'ai vraiment de souvenirs de ma maman qui mettait ça avec de la saucissante, un peu de lentilles vertes, ou des pommes de terre, et puis elle mettait de la compote tiède.
C'est
voilà,
ce que je disais il y a un instant. Ça n'est pas qu'un dessert, la compote. Grégory Lecomte, on va se retrouver dans un instant avec toutes nos dents, et puis surtout avec tous vos conseils, tous vos trucs et astuces pour dévorer de la compote et en faire soi-même. C'est tellement meilleur quand c'est fait maison. À tout de suite, Grégory, sur RTL.
À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Est-ce que vous saviez qu'elle peut accompagner la saucisse? On parle de la compote tout de suite avec Grégory Lecomte.
C'est du miel, je me régale le gosier.
Non, c'est pas du miel.
Et moi aussi, j'aimerais régaler le gosier. Grâce à vous, Grégory Lecomte, petit clin d'œil des visiteurs de Grégory. Vous êtes chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire. Donc, on peut manger de la compote même quand on a toutes ses dents. C'est quoi la différence entre une purée et une compote?
Une compote, ce sont des fruits cuits avec du sucre. Voilà, on retient bien ça. Alors qu'une purée, normalement, si on garde la même idée avec les fruits, ce sont juste des fruits qui sont cuits. Donc il y aura juste le sucre qui est déjà contenu dans le fruit, mais on n'a pas ce rajout de sucre.
D'accord. Manger une compote, est-ce que ça remplace le fait de manger un fruit?
Vous doutez bien que non, hein, forcément. Là, on va faire cuire ce fruit, on va perdre un peu de vitamines, rajouter un petit peu de sucre. Donc il vaut toujours mieux manger un fruit. Mais bon, je préfère aussi vous dire qu'il vaut mieux manger une compote plutôt qu'une barre chocolatée ou autre chose.
Tellement. Et on peut être hyper inventif, on va en parler avec les compotes. Mais moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que ça évite le gaspillage. Moi, tous mes fruits qui sont un petit peu trop mûrs et dont je me demande quoi faire, ben, finalement, je les mets tous en compote.
Tous les fruits un petit peu gâtés, ou même là, cet été, hein, quand il y en a beaucoup qui vont tomber de l'arbre et puis qui auront un petit coup, malheureusement, arrivé au sol, et ben, plutôt que de les laisser sur le côté ou de ne pas les ramasser, ben, on en fait une compote, bien évidemment.
On peut les mélanger entre eux aussi. Moi, parfois, j'ai fait des trucs de dingue. Hein.
Oh oui, vraiment, là, complètement, tout est possible. Il faut laisser libre cours à son imagination, hein, même à son audace, presque, pour mélanger tout ça. Et puis effectuer des associations qui, je l'espère, seront pour tout le monde heureuses.
Dites-moi, je suis en train d'y penser, une compote, c'est toujours avec un fruit? On peut faire des compotes de légumes, puisque c'est plus une méthode, je dirais, quelque part, de préparation et de cuisson?
Ah oui, voilà, c'est vraiment, on va être très strict, on l'a dit, hein, c'était des fruits plutôt cuits avec du sucre. Pour les légumes, on partirait plutôt sur une purée ou une compotée, vous voyez, pour l'appellation. Mais bon, maintenant, il faut dépasser un petit peu ces barrières et on peut facilement associer un légume avec un fruit. Là, par exemple, vous pouvez prendre 4 pommes, une mangue, vous y rajoutez 4 carottes. Et puis, vous mélangez tout ça, vous mettez une compote. Comme un peu maintenant pour les jus le matin, vous voyez, on met des jus de fruits, mais on met aussi des jus de légumes mélangés avec. Mm-hmm. Donc, comme le goût du fruit sera supérieur au goût du légume, en plus, on ne verra pas trop la différence. On retiendra que le plaisir sucré des fruits.
C'est quand même l'un des trucs les plus simples qu'on puisse faire en cuisine, la compote.
Ah oui, vraiment complètement. Là, c'est un des premiers trucs qu'on fait même en cuisine, alors seul ou avec ses enfants. Hein. C'est assez facile hein, pour une compote de pommes, par exemple. Hein. C'est plutôt le gros classique qu'on peut faire et que je peux vous donner là rapidement. Hein. Vous prenez 2 kilos de pommes. Moi, j'aime bien la golden pour faire la compote. Épluchée et taillée en gros dés. J'y rajoute ensuite. Alors, j'essaie de mettre moins de sucre que prévu. Et donc là, je mets 30 grammes. Et même pour remplacer le sucre, ce que je trouve intéressant, c'est de remplacer ça par de la cassonade ou du miel. Vous voyez, je me dis, quitte à rajouter un petit peu
du sirop d'agave.
Voilà, par exemple, autant que ça rajoute un petit goût, voilà, ou rajouter quelque chose qui va baisser un petit peu ce taux de sucre. Un verre d'eau, et puis après, vous mettez une gousse de vanille ou de la cannelle ou une épice qui vous fait plaisir. Vous mettez ça à feu moyen, voilà, pendant environ 20-30 minutes. Et puis dès que ça commence à s'écraser, soit vous l'écrasez avec une fourchette, ou alors vous le mixez complètement, sinon vous voulez plus du tout de morceaux.
Eh ben moi, c'est ce que j'aime, vous voyez, c'est dans la compote, c'est les morceaux. Je garde toujours les morceaux des fruits, moi.
On est bien d'accord. Moi, je préfère aussi totalement une compote.
C'est parce qu'on a nos dents.
La fourchette. Voilà, déjà, première chose. Moi, puis c'est toujours agréable, en fait, de tomber sur un petit morceau au milieu, et puis d'avoir toujours un petit peu cette mâche, plutôt que d'avoir tout mixé dans la compote.
Vous parliez d'une dose d'eau. Je trouve que c'est le plus compliqué pour le coup, parce que comment est-ce qu'on peut épaissir une compote si elle est trop liquide?
Alors, la petite astuce que je peux vous donner, en fait, alors déjà, vous pouvez remettre la compote sur le feu, vous la refaites évaporer, hein, vous l'avez dit, c'est beaucoup d'eau, donc si on la remet sur un feu doux, bah, forcément l'eau va s'évaporer. Mais si elle est trop liquide, l'autre astuce que je peux vous donner, c'est d'y rajouter un petit peu de fécule de maïs. Vous allez mélanger tout ça quand vous allez faire cuire, et vous verrez que ça va épaissir un petit peu votre compote si elle est trop liquide.
C'est toujours délicieux la compote, mais on la termine, enfin moi je la termine toujours ici à la maison, ça ne fait pas long feu. Mais néanmoins, ça peut se conserver combien de temps au réfrigérateur?
Alors moi je conseille environ 48 heures. Après, voilà, comme vous l'avez dit, souvent... avec 2 kilos de pommes, il y a tellement d'eau qui va s'évaporer qu'au final, on aura plus une si grosse quantité que ça au fond de la casserole. Et puis voilà, entre le petit déjeuner, la collation, le goûter, en général, ça fait pas long feu chez moi non plus.
Et puis on peut les utiliser dans d'autres recettes. Vous nous parliez de la saucisse tout à l'heure.
Oui.
Moi, je trouve que c'est délicieux de rajouter une touche sucrée parfois dans un plat salé par le biais de la compote.
Alors moi, je suis assez fan des plats sucrés-salés. Hein, donc voilà, hein, compote, on peut le rajouter. C'est un super accompagnement aussi. Et pour ceux qui préfèrent faire du plus classique et revenir sur des desserts, pas de souci, on peut le mettre dans des verrines, par exemple, un petit peu de compote, un petit peu de fromage blanc, au-dessus vous mettez un petit crumble ou un petit peu de muesli, ça marche très très bien. Moi, j'ai aussi des souvenirs de ma maman, vous savez, dans la tarte aux pommes, qui mettait du coup un lit de compote de pommes et puis après une belle rosace de lamelles de pommes par-dessus. On peut vraiment l'utiliser vraiment à toutes les sauces.
Vous savez ce que je fais aussi? Parce que on va livrer nos petits conseils de compote. Alors moi, j'adore faire des compotes avec des fruits différents, parfois avec des mangues, avec des pommes. Je rajoute, parce que je trouve qu'on peut tout essayer, on est bien d'accord, c'est inventif, la compote.
Ah,
donc, je rajoute des bananes et après, quand ma compote est encore tiède, j'ouvre un fruit de la passion.
Oh là là là.
Et c'est-à-dire que je ne le mets pas à cuire dans la compote, mais je le laisse justement à l'état de fruit cru dans la compote. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez conseiller aussi?
Ah bah totalement, et puis là vous avez ce petit peps là qui explose en bouche quand vous tombez sur votre petit fruit de la passion. Ah oui, très très bien, c'est parfait.
Bon, vous validez. Et alors il y a autre chose que je fais, docteur, et peut-être qu'on peut conseiller à nos auditeurs, c'est mettre des épices dans une compote.
Ah tout à fait, là on parlait tout à l'heure du sucre dans les compotes, et bah, c'est un excellent moyen de pouvoir baisser justement ce sucre, c'est en privilégiant quoi? Les épices. Alors la plus facile, on parle souvent de la vanille, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres. Hein. On pourrait mettre de la cannelle, bon, sel aux pommes.
C'est ça.
On pourrait mettre du 4 épices. Même, il faut pas avoir peur de mettre un peu de piment d'Espelette, par exemple. Ça marche très, très bien que le sucré. C'est un truc que j'adore. Donc, n'hésitez pas à relever un petit peu vos compotes. Ça sera original et puis très, très bon.
Est-ce qu'il y a des fruits de saison là, que vous conseillez? On ne peut pas faire une compote avec des agrumes, mais on peut mettre un petit peu de jus d'agrumes dedans.
Voilà, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la carotte pour revenir sur les légumes. Bah, carotte avec un petit peu de jus d'orange, un petit peu de jus de citron. Bah, vous allez pouvoir ajouter ça et puis faire une compote délicieuse, bien sûr. Là, forcément, après, on va avoir très bientôt, vous savez, les premières fraises aussi qui arriveront.
Ouais,
on peut très bien faire une compote de fraises, vous voyez, cet été, avec un petit peu de basilic. Donc, si vous faites en début de saison, les gariguettes, sinon les maras des bois, hein, si vous le faites plutôt en fin de saison. Et puis, alors là, malheureusement, j'ai vu qu'il avait neigé un petit peu partout en France cette semaine. Donc, si vous voulez reprendre des poires et vous faire, vous savez, vous faites des petites poires pochées avec des épices, vous gardez ça pour cet hiver. Un peu de cannelle, de badiane, de vanille, de cardamome. Et puis après, vous rédivisez tout ça en compote. Puis vous avez une délicieuse compote de poire aux épices.
Et Ligori Lecomte, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille en cuisine. Là, ça y est, maintenant, vous m'avez
donné envie.
Je vous remercie pour tous ces conseils, évidemment, Ligori. Et puis, évidemment, des recettes de compote, on les retrouve sur le site cuisineaz.com. Je vous embrasse. On s'embrasse à la compote. Une petite compotée de bisous pour se dire au revoir. Merci Ligori Lecomte, à très bientôt sur RTL. Ciao, ciao. C'est la fin de Nous Voilà Bien. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, séance de rattrapage évidemment en replay sur l'application RTL et sur nos réseaux sociaux pour les recettes. Moi je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 comme d'habitude sur RTL pour En effet pour s'entendre. C'est votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine de 9h15 à 10h évidemment pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien qui vous accompagne le samedi matin. Prenez bien soin de vous s'il vous plaît. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Bien sûr, je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.